la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et salut à tous, une 70e émission de Par le bout de la lorgnette qui va être consacrée aujourd'hui à la rentrée littéraire étrangère avec Pauline qui est là, qui a bien travaillé. Salut Popo.
Salut tout le monde.
Valérie, salut Valérie.
Oui, salut.
Bon, t'as bien travaillé aussi?
Bah écoute, raisonnablement.
Bon, c'est bien.
Point trop d'infos.
Voilà, exactement. Salut Héloïse.
Coucou.
Une belle rentrée littéraire étrangère, Héloïse, cette année ou pas?
Oui, super. Mais c'est, enfin, entre les deux, c'est peut-être celle que je préfère, où il y a le plus de diversité, en fait, la rentrée étrangère. Enfin, c'est personnel, mais...
Ben oui, il y a plus de pays, il y a plus de styles, il y a plus d'histoires, oui.
Tout à fait.
Et toi, Ludo, comment vas-tu?
Ça va très bien. J'ai lu un très beau livre, le même que Popo.
C'est vrai?
Ouais.
Superbe. Ah, il nous tarde que tu nous en parles.
Ouais, on va en parler tout à l'heure. Tiens, Pauline, tu as lu 3 livres, tu es la gagnante du jour, donc on va te laisser commencer par celui que tu veux.
Eh ben, alors le superbe livre, on va commencer.
Voilà. Allez, commençons.
Qui s'appelle Nami et qui a été écrit par Bianca Belova.
Voilà.
Quelle nationalité?
Tchèque.
Ouais.
Tchèque. L'aurais-tu lu aussi?
Oui,
c'est le seul qui l'a lu. Tu veux
je pensais,
tu
je pensais qu'elle allait me le laisser, mais non.
Ah, mais je te le laisse, alors vas-y, parle.
Ah. Ok, bon, mais je commence alors, très
vas-y,
bien.
Vas-y, commence en fait.
Allez, merci.
Vous êtes relou.
Ouais. Donc, chère Pauline, c'est un roman d'apprentissage, ce qu'on appelle un roman d'apprentissage. Valérie, tu sais ce que c'est un roman d'apprentissage?
Oui, j'en ai un aussi à vous présenter.
Voilà, c'est un récit initiatique, en fait, où on va suivre l'histoire de Nami. D'où le nom du titre, de jeune enfant jusqu'à l'âge adulte. Voilà, c'est ça, c'est les récits initiatiques, c'est l'évolution d'un personnage, positif ou négatif, vers la compréhension du monde ou de lui-même. Et dans quel monde vit-on, mes amis, dans ce livre, hein, Pauline?
Oui.
Dans quel monde vit-on? Et dans quel monde vit Nami? Et alors, on ne sait pas vraiment où l'histoire se passe, quand elle se passe, sinon que le pays est sous le joug des soldats russes, pas loin d'un désert, de plaine aride. Donc moi, je suis parti sur l'Afghanistan, Kazakhstan ou Ouzbékistan, je ne sais pas...
Alors là, moi, dans ma tête, c'était en Roumanie.
Voilà.
Et donc... l'Ukraine, non, ça ne marche pas, du coup?
Peut-être l'Ukraine. Ouais, voilà, moi, j'étais dans ce...
D'accord,
dans
donc en fait,
de
tous
pays.
Les deux, vous l'avez lu, vous n'avez aucune idée, en
parce
fait,
que
ça peut
on
se
sait
passer.
Pas.
Ouais. Peut-être qu'il y en a un des deux qui ne l'a pas vraiment lu.
Et si, moi je sais, parce que j'ai lu une interview de l'auteur qui parle de la mer d'Aral, entre Kazakhstan et Ouzbékistan. Suite à un photoreportage de National Geographic, l'auteur nous dit « Ces images m'ont beaucoup impressionné, je me suis mise à réfléchir sur la façon dont je pourrais y situer l'histoire d'un garçon qui arrive à maturité. » Voilà. Mais le nom des villes est complètement faux. L'histoire est fausse, donc on ne sait pas, si on n'a pas lu cette interview de l'auteur, on ne sait pas trop où ça se passe. On sait que c'est sous le joug russe, mais on ne sait pas à quelle époque non plus. Donc est-ce que c'est d'actualité? Est-ce que c'est il y a 20 ans, 30 ans? Hein,
bah, moi j'aurais dit aujourd'hui, mais c'est
parce
pareil. Parce
qu'il
n'y
a pas de téléphone
portable,
pas d'ordinateur.
Que je m'en fais l'idée soi-même. Moi, j'ai cru voir des indices, et puis finalement, il n'y en a peut-être pas. Dans ma tête, c'était clair que c'était de nos jours. Mais...
voilà. Non, c'est assez contemporain, mais encore
oui,
que...
de nos jours, oui.
De nos jours...
Oui, un peu, oui.
Alors, ce pauvre Nami vit à Bora. Donc, Bora, on dit, village au bord d'un lac où chaque habitant vit de ce lac. Ou plutôt de l'usine de traitement de poissons, ou en tant que pêcheur. Alors, chaque enfant a de l'eczéma, l'air qui n'y est pas vraiment pur. Quelques intoxications nucléaires également, avec la naissance d'enfants à 3 bras. Voilà donc ce très beau village de Nami, hein, qui est surveillé par des soldats russes, qui au passage, eux, ont le droit de viol. Hein. Voilà, l'auteur nous parle de ce livre et nous dit « C'est l'histoire d'un garçon dans un monde qui se désagrège, l'histoire d'une communauté plutôt traditionnelle qui se heurte à un régime agressif et imposé de l'extérieur. Et le garçon grandit dans cet univers, il s'interroge sur la façon dont il faut aborder ce monde en désintégration. » C'est tout à fait ça, Pauline. C'est l'auteur d'un côté, donc.
Il y a un côté très sombre, je trouve, là, qu'on lit dans ce que tu viens de dire, mais il y a aussi un côté très touchant. Il y a des pointes d'humour pour moi. Il y a des, il y a un peu de tout. C'est hyper varié. C'est pas que sombre. Et je pense que c'est pour ça que moi j'ai accroché. C'est que c'est pas que un roman dramatique, noir, d'une vie difficile. Il y a des moments très touchants, notamment le tout premier chapitre, moi, que j'ai trouvé très, très, très touchant. Nami est sur la plage, c'est un enfant. Et il parle de ses sentiments. On sent que sa mère est présente. On a l'impression que, voilà, cette femme qui est près de lui, c'est sa mère. Il en parle comme quelqu'un qui sent bon. Elle sent le melon. Et puis, il y a sa grand-mère. Elle lui donne toujours ses sucettes qui sont pas très bonnes. Mais il sait qu'il doit aimer la sucette. Alors, il prend toujours la sucette et il la mange toujours alors qu'il trouve pas ça terrible. Ça colle au papier. C'est pas génial. Il y a ce grand-père qu'on sent pas très sympathique. Mais malgré tout, c'est son grand-père. Voilà. Et il y a tous ces petits passages, moi, qui donnent du souffle à ce cadre qui est absolument glauque, hein, il faut le dire, mais qui finalement, voilà, nous font respirer, nous font dire, mais sa vie, elle est quand même touchante à ce Nami. Et c'est ces souffles-là, je pense, qui ont fait que moi, j'ai accroché. C'est pas, voilà, que du noir, que du sombre, que de l'horreur.
Parce qu'en fait, excusez-moi, mais dans cette ville, est-ce que les gens travaillent? Est-ce que les gens sont au chômage? Est-ce qu'il a de la famille autour de lui? Ou est-ce qu'il est orphelin? Ou est-ce qu'il...
Alors,
c'est quoi sa vie, en fait?
Il vit avec ses grands-parents, n'ayant pas connu ses parents. Tout le monde vit donc de du lac. Le lac qui, petit à petit, s'assèche parce qu'on irrigue des champs de coton à côté qui ne produisent pas vraiment, mis à part la propagande russe. Donc, au fur et à mesure, ce village se désagrège. Donc, au départ, tout le monde travaille et de moins en moins. Pour revenir sur ce que dit Pauline, Pauline a totalement raison, sachant qu'après c'est le premier chapitre où il est un enfant, donc c'est un peu plus édulcoré qu'après quand il devient un adulte. Mais l'écriture, on voit cet enfant qui ne subit pas, il vit cette vie qui est atroce avec plein de mésaventures qui lui arrivent, mais on le sent pas subir. Voilà, on le sent vivre. Et l'écriture de Bianca Belova sublime un peu cet être-là. C'est tellement beau, c'est tellement bien écrit que malgré toutes ces mésaventures, tout ça, c'est vrai que c'est beau.
Oui,
c'est beau.
Oui, on n'a pas l'impression qu'elle nous raconte la vie de quelqu'un qui souffre pour nous dire « Regardez, il souffre ». Plutôt pour nous dire « Regardez, il vit quand même, peut-être ». Oui, elle a ce talent-là dans son écriture et... Et c'est pas, enfin, voilà, il y a des scènes touchantes. Et même quand il grandit, en fait, je pense à d'autres scènes plus tard, quand il est adolescent, quand il y a des scènes très très dures, hein, il y a des scènes extrêmement violentes où on se sent très mal. Mais il y a des scènes extrêmement, voilà, toujours touchantes où on sent, voilà, qu'il vit quand même et que sa vie n'est pas que noire et qu'il ne subit pas sa vie. C'est tout à fait ça.
Ça me fait penser un peu à Poil de Carotte quand vous en parlez, un gamin un peu traumatisé et qui.
C'est Poil de Carotte, qui vit
version
tribale.
Version un peu plus difficile quand même.
Oui, d'accord.
Voilà, et donc devant ce lac qui donne tout à ce village, les villageois craignent l'esprit du lac, donc des coutumes assez anciennes, voire un peu tribales. Hein, on peut arriver à sacrifier des personnes pour calmer l'esprit du lac, pour avoir de la pluie, éviter les tempêtes, pour avoir une bonne pêche. C'est pour ça que le côté contemporain, ça reste un contemporain, mais on se dit quand même, c'est des coutumes d'un autre temps.
Oui aussi, ouais.
C'est un roman qui se divise en 4 chapitres, Embryon, Larve, Nymphe et Imago. Donc où on suit l'évolution de Nami, donc où rien ne lui est épargné, la dureté de la vie, la misère, les déceptions, les coups du sort. Alors il doit se forger une destinée à la seule force de son obstination, avec un mantra en guise de moteur, c'est retrouver un être cher qu'il ne connaît pas encore, en l'occurrence sa mère. Voilà. Donc bon, on peut le dire parce que ça arrive au début du livre, il perd ses grands-parents, il se retrouve seul.
Ah,
et
oui. C'est le seul truc auquel j'étais en train de me raccrocher là.
Ah oui, voilà. On se raccroche beaucoup à sa grand-mère.
Mais ses parents sont pas décédés, alors il a l'espoir en fait qu'ils soient encore là.
Il sait pas du tout. Il a de l'espoir,
mais il sait pas parce que personne lui en parle. Donc il se renseigne petit à petit. On dit que sa mère est partie à la ville. Donc premier chapitre, il est dans ce village, il grandit, il est adolescent. À l'adolescence, il part en ville. Donc là, à chercher du travail. Il travaille dans des mines de soufre. Autant vous dire que ça serait l'ONU doit faire des bons en lisant ces passages-là. Troisième livre, il va un peu plus dans le désert, dans des villages. Et quatrième chapitre, troisième chapitre, pardon, quatrième chapitre, il revient à la case départ. Voilà, c'est vraiment l'évolution jusqu'à l'âge adulte et le retour. C'est très intelligent, hein, c'est très très bien écrit. C'est un cercle de vie de ce garçon auquel rien n'est épargné, mais qui a un but dans la vie et qui va faire tout pour y arriver. S'il va y arriver, ça, je vous le dis pas. Hein, sinon, c'est pas marrant. Mais en tout cas, ouais, c'est un roman très dur, mais très poétique. On voit ce cauchemar soviétique de l'époque, cette dureté de la vie. Mais encore une fois, c'est l'écriture de Bianca Belova est vraiment, vraiment, vraiment très belle. Elle arrive à nous faire passer ces coups du sort de la vie de ce garçon où on se dit ce qui lui arrive, mais ce garçon ne vit ce qui lui arrive, il le subit pas. C'est ça qui est fou. C'est vraiment un très très beau roman de rentrée littéraire étrangère.
Et est-ce qu'on peut y voir une critique de la Russie d'aujourd'hui ou pas vraiment ?
De la Russie de...
De Poutine, de tout non. ça, de ce qui
plus
se passe en
du
ce
passé
moment,
peut-être
ouais.
plus Si du... on doit y voir une critique, ce serait, oui.
D'une occupation, voilà. Après, elle appuie beaucoup aussi sur les statues de ce grand homme qui sont sur les places, donc on imagine bien les statues de Lénine ou de Staline. Cette occupation... Oui, il y a une critique, mais c'est plus de l'occupation d'un pays par un autre, parce qu'eux, ils arrivent quand même à y vivre. Voilà, il y a des soldats qui font un peu ce qu'ils veulent, qui assèchent leur lac pour, donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, irriguer des champs de coton, qui amènent pas plus que ça, mais au niveau de la propagande, c'est important pour eux de dire, voilà, on a du coton, on a des travailleurs, tout le monde aime le pays. Donc, c'est quand même une critique, oui, oui.
Mais du communisme, en fait.
Voilà, oui, du communisme. Oui, mais c'est pas l'objet premier. L'objet premier, c'est vraiment centré sur ce garçon-là, comment arriver à se connaître, à connaître le monde dans un environnement aussi compliqué, voilà, y en étant seul au monde, quoi.
Ah, super, ça donne très envie.
Ah oui, allez-y.
Ouais, allez-y.
Et donc c'est édité chez cette fameuse maison d'édition qu'on aime beaucoup dans cette émission, Mirobol.
Mirobol, oui. Et j'ai eu des critiques en disant sur internet sur ce livre qui disait Mirobol a encore une fois frappé un grand coup. Ouais. Donc apparemment ils sont habitués.
C'est tout un bon Mirobol. Ouais. Je crois qu'il y a
c'est
pas de.
C'est vrai qu'on a rarement été déçus. Hein. Ouais.
Voilà. Et cet auteur a écrit un premier livre qui s'appelait Le Lac, d'ailleurs. Enfin le livre d'avant. Je ne sais pas si c'est le premier ou pas.
Donc, mais oui, c'était plus un roman effectivement époque soviétique. Où elle imaginait qu'il y avait toute une zone de la Russie qui était fermée parce que à cause du nucléaire, en fait, il y avait eu des explosions nucléaires et que des gens s'aventuraient dans cet endroit, une espèce de Tchernobyl, mais la moitié de la Russie, quoi. Et c'était plus de la science-fiction.
D'accord. Voilà, là, pas vraiment.
Oui, là, c'est très, très réel.
Voilà, à conseiller.
Totalement. Bravo, super.
Super. Héloïse. Vas-y, à toi l'honneur. Valérie, je dis ça.
Peu importe, on a lu le même.
On a lu deux mêmes. Ouais,
on va dire Valérie et Héloïse.
C'est ça.
Bon, on commence par...
Le roman initiatique.
Le manuel à l'usage des jeunes filles. Oui, voilà. Tout à fait. Mais moi,
tu vois, même le titre est tellement long que tu n'arrives pas à le dire en entier.
Manuel à l'usage des jeunes
manuel
filles.
Manuel de survie.
De survie à l'usage des jeunes filles. C'est un roman écossais, édité aux éditions... Métellier. Et l'auteur, je me souviens plus
Mick
de son nom.
Mick Kitson, c'est son premier.
Oui, c'est son premier roman, Mick Kitson, et c'est un musicien à la base, un gallois, pardon. Mais ça se passe en Écosse.
Musicien, journaliste, qui aime pêcher à la mouche et jouer du banjo, faire des framboises et construire des bateaux.
Donc en fait, quand j'ai reçu ce livre, donc c'est vrai que le titre m'a un peu rebutée.
Ah, pareil.
Parce que Manuel de survie à l'usage des jeunes filles, ça me fait penser à tous ces romans un peu en vogue.
Les titres à rallonge.
La femme parfaite est une machin. Mm-hmm. Voilà, les titres à rallonge, les trucs un peu girly. Voilà, ça m'a fait penser à ça.
Et sachant que le titre original, c'était Sale.
Oui, ça n'a rien à
voir. C'était fabuleux, ça parlait 10 fois plus que...
Voilà, et donc du coup, les éditions ont choisi de changer le titre, ce qui n'est pas très heureux là dans ce cas-là, je trouve. Ouais, parce
surtout,
que ça, je trouve que ça reflète pas du tout le contenu pour moi. En vérité. Donc, c'est l'histoire de deux petites filles, une ado et sa petite sœur. Enfin, elles sont demi-sœurs, en vérité. Ouais. Elles n'ont pas le même papa. Elles vivent dans des conditions pas top non plus.
Mais disons que si on considère qu'avoir une mère droguée alcoolique, un beau-père droguée alcoolique, truand et pédophile, ce sont des conditions pas idéales, alors oui, elles vivent dans des conditions pas idéales.
Voilà,
c'est pas terrible.
Voilà, donc... disons que ça aurait pu être pire. La mère aurait pu être elle aussi pépine, mais elle était trop dark tout le temps, trop dans un état d'ébriété en permanence.
Elles ont quel âge, ces petites filles ?
10 et 13.
Oh là
là. Voilà. Ça, elle a 13 ans. Salmarina, son prénom. Et la petite Sally, la petite Peppa, elle a 10 ans.
Alors, en fait, ça commence effectivement par cet état des lieux, en fait, de leurs conditions de vie. Et très vite, en fait, on part sur une autre aventure. C'est-à-dire que Peppa prend les choses en main, c'est-à-dire qu'elle se fait violer régulièrement par... se fait violer régulièrement par son beau-père. Elle en peut plus, tout simplement, elle décide de le tuer. Donc, elle le tue et elle s'en va. Elle part en fugue avec sa petite sœur. Elle a tout repéré, elle a regardé tout un tas de vidéos sur YouTube de survie. Elle est fan de Bear Grylls, ce fameux monsieur qui donne des stages survivalistes, etc. Elle s'achète tout le matériel qu'elle peut avec les cartes bleues volées de son beau-père. Et donc, elles partent toutes les deux dans les Highlands, en Écosse, s'installer pour se couper du monde. Parce qu'effectivement, même si le fait de tuer ce monsieur peut sembler effectivement justifié, dans leur tête, en fait, elles ont peur d'être séparées, d'être placées dans des instituts. Donc, elles veulent rester toutes les deux. Et du coup...
C'est un peu leur fil rouge aussi. Elles l'entendent depuis petite. Attention, si vous vous comportez mal, si vous prévenez les services sociaux, si vous dites ce qui se passe à la maison, quoi qu'il en soit, vous serez séparés. Puisque vous êtes, non seulement vous n'êtes pas des vraies sœurs au sens littéral du terme, mais en plus, on ne garde jamais les enfants ensemble. Enfin, ça, c'est une chape qu'elles avaient sur elles.
Tout à fait. C'est une vraie peur qu'elles ont. C'est pour ça qu'elles décident d'aller camper en pleine nature. Donc, elle sait tout faire. Elle sait fabriquer une cabane, elle sait pêcher, elle sait tuer des lièvres, elle sait se débrouiller sans souci. Elle a pris quelques médicaments. Enfin, voilà, elle a tout prévu. Et donc, en fait, c'est le récit de cette survie et de cette parenthèse, en fait, j'irais même que c'est un peu des vacances pour elle parce qu'elle passe de très bons moments, en fait, en pleine nature, même si c'est l'hiver, même s'il neige, même si c'est dur. Eh ben, elles adorent. Et la petite sœur est un personnage vraiment hyper touchant, hyper drôle. Elle est toujours en train de jurer comme un charretier. Mmh. Elle est très dynamique. Mmh. Elle danse, elle court plus vite que n'importe qui. Et c'est un personnage très vivant et on comprend cet amour qu'a la grande sœur pour cette petite et qu'elle ait voulu la protéger à tout prix. En fait, je pense qu'elle a pas fait tout ça pour elle, mais en fait pour sa petite sœur. Quoi. Mmh. C'est vraiment, pour moi, c'est l'histoire d'un amour
inconditionnel entre sœurs. Mmh. Ouais.
Tout à fait. Et les descriptions de la nature aussi, de l'Écosse, de la faune, de la flore, j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Enfin, c'est une vraie bouffée d'air après tout ce qu'on lit sur leur passé. Enfin, franchement, on le vit comme elle, c'est-à-dire comme une libération, cette nature-là.
Moi, au départ, j'avais l'impression que c'était un rêve, que c'était Sale qui racontait cette histoire à sa sœur, enfermée dans leur chambre pendant que le beau-père était en train de taper la mère. Tellement ça paraissait beau et facile, la façon dont elle le racontait. Après, moi, vraiment la chose qui m'avait déplu, mais qui me faisait dresser les poils sur les bras, et à chaque page, il y a le mot « YouTube ». Et parce que comme elle a appris la survie en regardant des vidéos, chaque page, il y a le mot YouTube. Et j'en pouvais plus. Et chaque fois que je finissais une page, je disais, si la page d'après, il y a YouTube, j'arrête de lire. Il y avait le mot YouTube, mais j'avais envie de savoir la suite de l'histoire. Et c'est là où il vise quand même très fort Mick Keystone, parce que c'est quand même quelqu'un qui a une cinquantaine d'années, je crois. C'est qu'il... Donc la narratrice, c'est assez Sale, qui a 13 ans. Et c'est écrit... Comme une ado de 13 ans. Donc, tu lui pardonnes de dire le nom des marques, des fois mal parler ou autre. Mais autant l'histoire en elle-même, je l'ai trouvée super, bien qu'on puisse douter que ce soit probable. On sait que c'est improbable de survivre comme elle survive.
Je suis pas sûre.
13 et 10. Hein. Avec que des tutos YouTube, quand t'as jamais mis les pieds à la campagne. Mais peu importe. On peut leur laisser le bénéfice du doute. Mais j'ai adoré l'histoire, mais c'est le... Ça me met vraiment le... J'étais ravie qu'elle ait tué le beau-père, et il méritait. Ça, c'est pas une question de ça, c'est une question vraiment de punaise, toutes les marques qui sont données dans le livre, mais ça m'a dérangée.
Et ça, je pense que c'est par rapport à ce point de vue. En fait, moi, je l'ai senti comme ça, c'est-à-dire que c'est elle qui parle, et malgré tout, elle était baignée dans ça, et tout ce qu'elle a appris, effectivement, c'était sur Internet, c'est sur quelques livres, effectivement. Et donc, c'est pour ça, je pense que c'est pour ça qu'il a choisi d'en citer autant.
Ah ouais, parce que j'ai commandé sur Ama, j'ai mangé des gâteaux Belle-Vie, mais le sucre, je l'avais volé chez Mac, Et tout est écrit, enfin, c'est tout le temps, il y a toutes les pages.
C'est chez YouTube Édition aussi. Hein.
C'est ça.
Non, mais je pense que c'est peut-être grâce à ça aussi, grâce à ce vocabulaire qu'on croit vraiment au fait que ça soit celle qui parle. Quoi.
Mais c'est, c'est vraiment, voilà, c'est, j'ai trouvé après, ça parce que dommage.
Bon, c'est vrai qu'elle survive toute seule pendant quelques semaines, mais elle rencontre, on peut le dire, elle rencontre un super personnage en forêt, quelqu'un de très bienveillant et quelqu'un qui vit depuis longtemps dans cette forêt-là, une hippie en fait, voilà, et qui va aller beaucoup les aider, notamment.
Les sauver dans un premier temps, on peut dire.
Parce que Peppa est tombée malade et voilà. Donc du coup, c'est... Enfin, moi, ça m'a vraiment touchée.
Moi, ça, j'ai vraiment adoré l'histoire, mais c'est vrai que je partais avec des mauvais a priori. Bon, le titre, mais clairement le titre, ça m'a bloquée. Et après, c'est toutes ces marques. Mais vraiment, mais j'ai l'impression de devoir subir, comme à la télévision, les publicités, en fait. Je lis mon roman et puis bim, on me met des pages de pub. Et ça m'a beaucoup dérangé, ce côté-là. Après, on passe outre parce que l'histoire, elle est vraiment chouette, elle est originale, elle est vraiment, vraiment poignante. Et puis, c'est vraiment comme si on était dans la tête de Salmarina. On passe de « je raconte ce que je suis en train de faire, je suis en train de poser un piège pour capturer un lapin, j'ai étudié un peu les traces ». Et oui, parce que j'ai volé la carabine 22 de mon beau-père. Et bim, elle nous fait un flashback sur l'appartement sordide où elles habitaient. Et c'est pour ça qu'il y avait tellement de flashbacks qui sont bien faits. Ils sont bien mis au bon endroit. Je me suis dit, mince, pardon. Elle est en train de nous amener, dans une histoire. Et je me suis dit, à la fin du livre, elle va nous dire qu'en fait, non... elles sont en danger, elles sont dans cet appartement et elle raconte à sa sœur cette belle histoire de tu vois, si on arrivait à fuir, on irait dans la forêt, il se passerait ça, je saurais comment vider un lapin, je saurais comment pêcher un brochet. C'est fabuleux, la pêche au brochet.
C'est un excellent roman, tu me diras si ça avait été ça aussi.
Voilà, mais c'était mieux. Voilà. Mais j'avais peur, mais j'étais terrifiée à l'idée qu'il se passe ça. J'imagine parce que bien. Clairement, le beau-père, il est. Et elle en parle, alors c'est un salopard fini, là j'ai le droit de le dire, ce gros mot-là, puisque c'est réellement ce qu'il est. Il n'y a pas d'autre terme qui puisse le qualifier, mais elle en parle avec heureusement qu'il était là, sinon elle aurait pas eu les cartes bleues, elle aurait pas eu
elle aurait peut-être pas eu besoin de partir s'il avait pas été là.
Il y a d'autres
oui Valérie
oui non mais si je pense qu'elles auraient besoin elles auraient besoin de fuir quand même, je pense, à un moment donné,
mais peut-être pas à ce point.
Ça se finit bien, est-ce qu'on peut le dire? Non,
on peut dire que oui.
Oui.
Je peux dire que.
Merci Valérie.
Mais non, mais je peux pas. Après, sinon, je dis tout.
Tiens Valérie, tu vas me trouver une page. Il faut qu'on reprenne l'habitude de lire des passages, parce que je vais lire un passage en attendant de Nami. Hein, je vais lire le début parce que c'est bien ce que tu nous as dit, Pauline.
Ah oui, il est très beau ce début.
Nami est en sueur. Il s'agrippe à la main graisseuse de sa grand-mère. Les vagues du lac clapotent régulièrement contre la jetée en béton. De la plage urbaine parvient un cri, plutôt un braillement. Ça devait être un dimanche s'il était ici sur une couverture avec sa grand-mère et son grand-père. Il y a encore quelqu'un, Nami se rappelle les trois taches rouges d'un maillot de bain, les trois triangles d'un bikini et, au-dessus, un faisceau bien peigné de cheveux bruns comme la queue d'un cheval. Vas-y Valérie.
Alors justement, j'ai retrouvé la page du brochet où elle capture donc le brochet. Elles ont galéré, le brochet est sur le bord... Et sur le bord de l'eau. Et donc c'est Peppa, donc Sal qui raconte. Donc Peppa a fait « Putain de merde, Sal !» Je lis, j'ai le droit. Elle s'est agenouillée à côté de lui et a tendu la main pour lui toucher la tête. J'allais lui dire non quand le brochet a brusquement tourné la tête, ouvert la bouche et mordu. Peppa a fait un bond en arrière et a hurlé en se tenant la main et le poignet. Puis j'ai vu du sang gicler. Et elle a crié à nouveau. Alors j'ai frappé le brochet de toutes mes forces. Peppa faisait des bonds sur la plage en se tenant la main et en criant « Putain, il m'a mordu ! Il m'a mordu, l'enfoiré !» Je me suis précipitée vers elle pour regarder sa blessure et j'ai vu trois longues entailles qui pissaient le sang sur ma main et son poignet. J'ai respiré et je me suis dit de ne pas paniquer, mais mon cœur cognait dans ma poitrine et j'ai senti la tête me tourner en voyant son sang. Il collait à flot et gouttait sur les pierres. Elle tenait sa main et criait en perdant son sang et du rouge coulait le long de son bras et sur son t-shirt.
Ok.
Voilà, après, il y a des moments très drôles.
Oui,
aussi, c'est
oui.
Vrai.
Mais là, bon, là, elle a mal, mais c'est vraiment le ton. C'est la petite Peppa, elle est nature. C'est, elle parle, elle jure, mais comme un charretier. Mais c'est vraiment un pur produit de la jeunesse anglaise non cadrée, j'allais dire.
Merci. Quelle maison d'édition ?
Métayer.
Métayer.
On avait parlé souvent beaucoup de livres un peu du nord nordique de chez eux, qui étaient très très bien.
Ok. Une heure moins cinq, on fait une pause ou on enchaîne? Allez, on fait une pause. Tu as choisi quoi aujourd'hui?
J'ai oublié.
T'as oublié de choisir. Eh ben écoute, on va écouter Jamiroquai alors.
Cool.
Voilà, Héloïse, tu sauras tout sur ce livre. Et vous ne le saurez pas si vous ne l'achetez pas, chers amis, Nami, et également le mode d'emploi pour jeunes filles.
Manuel de survie.
C'est ça. Allez, le coup de cœur de cette émission, peut-être. Ah, oui. Oui, tout le monde est d'accord.
Tout le monde est d'accord.
Ouais. Alors, allons-y.
Tout le monde fait un petit cœur avec ses doigts, s'il vous plaît.
Ouais, pas moi, je ne l'ai pas lu.
On se repose. Mais oui, mais tu le liras. Tu devais le lire, c'est moi qui te l'ai
donné. Je devais le lire, oui.
Et tu l'as donné à qui?
À Popo.
Oui, c'est vrai.
Chacun ses chouchous.
Voilà. Vas-y. Valérie, tu veux le présenter?
Non, c'est pas forcément le présenter, mais je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Mais ça fait longtemps que je l'ai lu, donc je l'ai peut-être un peu oublié. Mais ce sera la quatrième fois, je crois, que je présente un roman d'Ogawa Ito. Donc, et que je fais des petits cœurs avec mes mêmes. Donc, je pense que je peux dire que j'adore Ogawa Ito. Là, elle vient de sortir un nouveau livre qui s'appelle La papeterie de Tsubaki. Alors, sur mes notes, à chaque fois, je mets le genre de livre que c'est que je lis. Et là, dans le genre, j'aurais dû mettre roman. Et j'ai mis genre doux, beau, délicat, sensible, calme. Voilà. Tellement c'est beau, c'est magnifique. Et chaque fois, Ogawa Ito, quand elle écrit des livres, on est sur des thèmes très différents. Avec le ruban, c'était une histoire d'une jeune fille. Le restaurant de l'amour oublié, c'était le retour d'une fille dans son village natal. Ah si, il y a une histoire de retour aussi à chaque fois. On était sur une auberge tenue par un couple un peu différent vu l'état d'esprit au Japon.
C'était le jardin arc-en-ciel.
Le jardin arc-en-ciel, voilà. Et on est quand même sur des tranches de vie, donc deux personnes. Mais chaque fois, elle y apporte sa touche. Et il y a quand même ce fil rouge, cette légèreté, cette beauté dans la description et cette simplicité. Donc là, dans la papeterie de Tsubaki, donc déjà, rien que le titre est magnifique, Ogawa Ito va nous raconter l'histoire de Hatoko, qui est une jeune fille de 25 ans qui revient donc dans sa ville après avoir eu une vie un peu estudiantine, un peu dissolue, après s'être bien amusée, après être partie un peu en Europe. Elle revient donc Et elle revient donc dans la ville où elle a été élevée par sa grand-mère, qu'elle considérait comme étant très, très dure, enfin très sévère.
Et qui était très sévère. Hein.
Ouais, mais moi, au fur et à mesure des pages, je me suis mis à l'adorer.
Ah, bah, c'est sûr, oui, on l'aime bien quand même.
Et du coup, donc, elle revient et elle reprend la papeterie, donc la papeterie de Tsubaki, donc la papeterie qui était tenue par sa grand-mère et qui l'avait élevée. Et cette papeterie, c'était pas une papeterie comme les autres. C'est une papeterie, mais sa grand-mère était aussi écrivain public. Et écrivain public au Japon tel que ça nous est décrit, c'est pas juste écrire un courrier pour l'URSSAF ou pour le CSA. Non, c'était vraiment écrire avec son cœur, écrire surtout avec les yeux, le cœur et la main du client qu'on recevait. Donc on reçoit le client, on lui offre un verre de thé, une tasse de thé, et puis on prend sa demande. Et là, donc elle va reprendre cette papeterie. Et elle va nous raconter sa vie et donc comment elle reçoit ses premiers clients, ses premières commandes, sa première lettre de rupture, sa première lettre qu'elle doit écrire pour une personne qui doit refuser un prêt à quelqu'un qui lui a demandé de l'argent. Et elle nous raconte toutes ces lettres, comment elle va choisir chaque fois quel papier, d'où vient le papier, quelle encre, quel stylo, quel style d'écriture, quel timbre elle va mettre, parce que c'est important aussi, puisqu'elle explique comment le timbre, c'est un peu, si on le comparait une lettre à un visage d'une femme, c'était un peu le rouge à lèvres. Et que si tout le maquillage est parfait, si le rouge à lèvres est foiré, ça va foirer tout le maquillage du visage de la fille. Et c'est très beau, c'est jamais trop. C'est juste assez, les descriptions. On ne s'endort pas, on le vit, on est avec elle. Et cerise sur le gâteau, les calligraphies, après, sont dessinées dans le livre. Et ça, alors, c'est absolument merveilleux, même si elles sont en noir et blanc. Ça fait rêver, ça transporte, ça emporte. Et en parallèle de sa vie d'écrivain public, donc de gérante de la papeterie de Tsubaki, il y a sa vie personnelle, sa vie privée qu'elle nous raconte. Et c'est pareil, tout en légèreté, tout en beauté, les habitudes, les traditions, les traditions au Japon. Enfin, c'est beau, ça sent le cerisier japonais, ça sent la quiétude, la plénitude, mais ça sent aussi le mouvement des villes qui sont bien peuplées, qui vivent jour et nuit. Enfin, c'est parfait. C'est un roman.
Il se passe des choses quand même dans ce livre.
Mais c'est tout ce que je viens de te dire.
Très peu et à la fois énormément.
C'est ça.
C'est tout en légèreté, c'est tout à fait ça.
Non, mais c'est le quotidien, c'est tout simplement la vie quotidienne. Avec cette particularité du Japon, effectivement, les temples, les traditions, les petits rituels, en fait, qui sont magnifiques. Quoi. Il y a un rituel qui est génial qu'elle fait tous les ans, c'est-à-dire que les gens lui envoient les lettres dont ils veulent se débarrasser, mais qu'ils ne peuvent pas jeter eux-mêmes. Et donc, elle les brûle dans un immense feu de joie, et ça a une certaine signification, et c'est très beau. Enfin, Et tout le monde n'est pas prêt à se séparer de ses lettres. Enfin, voilà, c'est un rapport à l'écriture, au papier et aux relations humaines qui est vraiment génial, quoi, parce que c'est vrai que plus personne n'écrit trop de lettres et ça donne envie, effectivement.
Ça donne envie
que,
d'écrire. Hein.
Oui, c'est un média, je trouve, qui apporte autre chose, effectivement, qu'un mail ou un SMS ou même une conversation. Quand on est énervé, par exemple, quand on a envie de dire à quelqu'un qu'on est énervé, je pense qu'écrire une lettre, c'est la bonne solution parce qu'on va pouvoir poser un peu ses idées. Et là, clairement, on le voit, quoi. Et j'ai testé, après avoir appris la lecture de ce livre, j'étais très énervée par mes voisins. Et au lieu d'aller les voir et de dire nanana, je leur ai écrit une lettre boostée par Ito Ogawa et par la papeterie Tsubaki. Quoi. Et on m'a répondu comme quoi le dialogue était possible. Ouais. Et j'ai découvert ça grâce à Ito Ogawa.
C'est très chouette. Comme... Ah, mais c'est évident parce qu'elle te donne envie de, justement d'écrire, de prendre en considération l'autre par le biais de l'écriture.
Et puis de faire passer énormément de choses. Par l'écriture, c'est incroyable comme elle arrive à te... Ben voilà ce que tu disais tout à l'heure, dans le choix du papier, de l'encre, de même du format, parce que bon, eux, ils ont le choix d'écrire vertical, horizontal, et tout ça, ça a de l'importance, et tout ça, ça apporte un sens à ta lettre, et c'est incroyable.
Non, c'est vrai que c'est incroyable.
Ouais, très,
et
très beau.
Et après, oui, effectivement, la relation avec sa grand-mère, quand elle en parle, au début, c'est assez dur, et au final, elle aussi, au fur et à mesure qu'elle est dans ce lieu, dans la papeterie, elle arrive à accepter aussi cette relation, et à
s'imprégner
aussi,
de...
Ouais, et à faire partir les regrets qu'elle avait par rapport à ça aussi. Donc c'est toute une évolution, l'évolution d'une femme, l'évolution d'un commerce aussi, parce qu'elle apporte des nouvelles choses quand même dans cette papeterie. C'est vraiment magnifique.
Mmh. Oui, c'est vraiment très...
C'est autobiographique, elle a travaillé dans une papeterie, on le sait ou pas?
Non, c'est encore totalement... un roman.
Alors j'ai eu des lettres de lecteurs, justement, d'auditeurs plutôt, qui voulaient qu'on parle un peu plus du livre en tant que livre, hein, du grammage,
du
tout ça.
Ce
qu'on
faisait, papier, du grain, c'est vrai, du papier, c'est vrai, ce qu'on faisait au début. On me l'a dit aussi. Mais
on te l'a dit aussi. Juste au niveau de la police, c'est assez aéré comme livre.
C'est très, très agréable à lire.
Oui, ça se lit vite, effectivement, et c'est vrai que...
À se passer.
Les pages, l'écriture n'est pas tassée, mais il fallait ça avec ce roman. Quoi.
Ils ont... ça ajoute à cette douceur.
Voilà, c'est ce que j'allais te dire.
Ouais, c'est très fluide comme lecture, vraiment. Et c'est un très beau cadeau à faire. C'est quelque chose d'un livre très bienveillant qui fait du bien.
Elle a écrit des textes pour des magazines de cuisine.
C'est possible. Hein. De toute façon, dans le restaurant là, de l'amour oublié, c'était vraiment que des saveurs hein, dans son livre. C'était un roman, mais il se mangeait plus qu'il se lisait.
Et oui.
Mais même là, dans celui-là, la nourriture, elle est quand même bien présente parce qu'elle cuisine beaucoup avec sa voisine. Elle partage. Donc là, elle a sa maison, mais qui est séparée par du papier crépon quelque part avec sa voisine. Donc elle parle entre elles sans être dans la même maison, tellement les murs sont fins. Et la nourriture est vraiment ce qui va les faire se rencontrer. Enfin, elles vont faire des pique-niques, elles vont vraiment se partager. Et puis des spécialités chaque fois japonaises, il y a un petit lexique qui les explique, qui va vraiment, vraiment faire nous immerger encore plus dans le Japon et encore mieux comprendre cet art de vivre, cet art du temps qui défile, mais tranquillement, mais c'est pas ennuyant. On s'ennuie pas.
C'est pas mou.
Non, voilà, c'est pas mou, c'est
tranquille.
Plein de... voilà. Mais c'est plein de vie. Enfin, c'est vraiment beau. C'est une légèreté, mais pas triste. C'est beau. Tout simplement beau. Des belles rencontres. Puis on voit toutes les saisons, hein, donc, puisque c'est sur toute une saison.
Oui, effectivement, il y a quatre chapitres, saisons, un chapitre par saison. Et effectivement, on voit l'évolution de la nature et toutes ces évolutions. Oui.
Et là, la sienne aussi. Enfin, moi, c'est par rapport à la grand-mère, j'ai été émue parce qu'on se rendait compte qu'elle l'a redécouvrée. Elle redécouvrait sa grand-mère qui l'avait élevée, qui était dure. Elle l'a redécouvrée au fur et à mesure. Et c'était beau, mais sans regret non plus. Elle regrettait pas ce qu'elle avait, ce qu'elle avait vécu ou pas vécu, justement.
Oui, effectivement, parce que sa grand-mère était dure, notamment dans l'apprentissage de la calligraphie. Enfin, il fallait faire des exercices tous les jours. Mm-hmm. Enfin, voilà. Et on découvre au final qu'elle est contente d'avoir tous ses savoirs et de faire ce métier, en fait.
C'est ça.
Voilà.
Ah, mais c'est vraiment beau.
On peut lire une lettre, si vous voulez.
Allez, lis-nous une lettre.
Tu veux la lire, Valérie?
Non,
je peux expliquer le contexte,
vas-y.
Non, bon, c'est Monsieur Sonoda qui a envie, en fait, de se signaler... à son ex-femme, juste de dire, voilà, de dire qu'il pense à elle, mais sans arrière-pensée, c'est-à-dire qu'il ne veut pas retourner avec elle, mais il a juste envie, voilà, d'y envoyer un petit mot et de savoir, voilà, si elle est heureuse et juste, voilà, de se signaler.
Oui, c'était son ancienne amoureuse.
C'était
un amour d'enfance. Il avait envie d'avoir, de lui donner de ses nouvelles, mais sans créer le trouble chez elle, parce qu'il est quelqu'un de respectueux. Mm-hmm. Mais il avait envie de partager. Voilà.
Voilà. As-tu le sourire chaque jour ? Comme je te connais, tu prends sûrement plaisir à chanter de temps en temps. Je me porte bien. En ce moment, le week-end, je pars en randonnée à la montagne avec ma fille, une petite écolière pleine de vie. Avec toi aussi, j'en ai fait des randonnées. Sur le mont Gassan, dans la tempête, nous avons frôlé le pire. C'est maintenant un bon souvenir. Rien ne m'apporte plus de joie que de te savoir comblée. Moi aussi, je coule des jours heureux. Prends bien soin de toi. Sous des cieux lointains, je prie pour ton bonheur. Adieu.
Oui, Valérie.
Et elle explique pourquoi elle écrit. Pourquoi est-ce qu'elle écrit ça ?
Qu'est-ce qui se passe ? T'as un problème ?
Je suis émue.
Tu es émue ou tu manges du fromage ? Ok, très bien, passons. Bon, ben super, hein, super livre.
Je croyais que la lettre était plus longue.
Bon, peut-être que Louise n'a pas tout lu. Hein.
Non, j'ai tout lu, ça se finit comme ça, c'est
clair et net. Non, mais
chaque
fois, c'est parfait. Et tous les courriers qu'elle rédige, à Toko, ils sont parfaits. Elle explique pourquoi est-ce qu'elle écrit ça, pourquoi cette durée, pourquoi le choix de tel mot, tel... Et chaque fois, elle vise juste. Enfin,
Après, il y a un truc très japonais dans le sens où je ne sais pas si nous, on capterait tout ça, si on reçoit une lettre avec...
La calligraphie a son importance.
Voilà, avec tous ces détails qui sont étudiés. Oui. Mais moi, je reçois une lettre comme ça, je la trouve très belle.
Oui.
Mais je ne vais peut-être pas déceler dans chaque détail la signification.
Non, mais au moins, tu n'auras pas de... Si tu cherches à déceler, j'allais dire, le petit sens caché, le message subliminal, pourquoi est-ce que sur la carte postale, il y avait eu telle fleur ? Si tu vas chercher les significations, tu te rendras compte que c'était dans l'objet, et que c'était pas au hasard. Tiens, je prends cette carte. C'est un peu comme toi quand tu nous envoies des cartes postales, Héloïse. Il y a toujours une signification sur le dessin et sur l'écriture, le tampon que
c'est
tu vas mettre.
C'est moins subtil, mais
oui, mais il y a une.
J'ai pas toujours suivi alors.
Ah bon ? Tu les regarderas.
Ok, super.
Ça s'appelle La papeterie Tsubaki, Ito Ogawa, et c'est chez Piquier Édition.
Bon, est-ce qu'on n'aurait pas un livre pour cette rentrée littéraire étrangère avec un peu d'attaque, de bagarre, de trucs comme ça ?
Mais genre d'attaque cardiaque ou
d'attaque...
Ah oui. Ce serait énorme d'avoir une attaque.
Ouais, ça serait énorme d'avoir un livre comme ça présenté.
Pour terminer, non ?
Pour terminer.
Bah voilà.
Oui.
Ouais, mais c'est improbable que ça arrive.
Alors, Héloïse, un dernier livre, qu'est-ce que tu nous proposes ?
Alors, ce livre s'appelle La Mélodie. Il est écrit par Jim Crace. C'est aux éditions Rivage. Il est traduit. Il est traduit de l'anglais.
De l'anglais.
Alors, on l'a lu avec Pauline toutes les deux. Moi, j'ai lu que le début, pour tout vous dire. Donc, je vais vous parler un peu de l'histoire du début, de la trame. Et après, Pauline nous dira ce qu'elle en a pensé. Donc, c'est l'histoire en fait de Buzzy, donc un vieux monsieur. Qui vit dans une grande villa au bord de la mer, une villa un peu désuète. D'ailleurs, tous les promoteurs immobiliers lui demandent de l'acheter, mais lui, c'est une maison de famille, il veut pas la lâcher. Donc, il est tout seul parce qu'il a perdu sa femme, en fait, il y a pas longtemps. L'amour de sa vie. Voilà, donc il est tout seul et c'est un ancien crooner, un ancien chanteur, en fait, à succès, qui était très connu. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui viennent encore le voir dans cette station balnéaire pour un autographe, pour une photo avec lui. Et il donne des représentations, même s'il n'a plus la même voix qu'avant, il le dit, il n'est plus pareil. Il n'a plus, même quand il joue du piano, c'est plus pareil, il est assez âgé. Mais il donne quand même des représentations pour la maison de retraite du coin, pour une inauguration, pour des choses comme ça. Et donc voilà, on retrouve ce monsieur dans ce cadre assez, assez douillet. On sent qu'il y a une certaine tristesse quand même, parce qu'il était fou amoureux de sa femme et il en parle avec beaucoup de nostalgie. Mais il ne se laisse pas abattre pour autant non plus. Et donc, on le retrouve dans cette maison, à la tombée de la nuit. Il est souvent énervé ou contrarié parce qu'il y a des animaux qui viennent fouiller dans les poubelles et qu'il réveille en pleine nuit, ratons laveurs, etc., chats en tout genre. Donc, ça l'agace un peu. Et donc, cette nuit-là, cette fameuse nuit, il entend du bruit encore et encore. Alors, il regarde par la fenêtre, il n'arrive pas trop à voir ce que c'est. Il prend un bâton. pas dans l'intention de taper, mais dans l'intention de faire peur, en fait. Il sort de sa maison, enfin sur le palier, et il a toujours peur, en fait, des ombres, de la nuit. Il n'est pas très à l'aise, mais bon, il a quand même envie de dormir. Et le lendemain, il a un concert à donner, donc il faut qu'il soit en forme. Et là, quelque chose lui saute dans le dos, de l'intérieur de la maison. Et le mord, le griffe de partout, lui fait mal. Il a son bâton et en fait, il est persuadé que c'est un enfant, en fait. Et il dit, je ne vais pas taper. Il reste là, il se laisse agresser. Et après, donc, il appelle sa belle-sœur pour se faire soigner. Ça doit durer même pas 2 minutes, l'attaque. Hein. Mmh. Voilà, mais il est quand même... Il est sanguinolent, il a mal. Et voilà. Donc...
Là, c'est donc les 10 pages.
Donc là, c'est le début. C'est oui. Le début de ce roman. Et donc après, à partir de cette attaque, quand tout le monde voit qu'il a été attaqué, tout le monde se pose des questions. Il y a une espèce de psychose qui prend les habitants de la ville, en fait. C'est ça, hein ?
Oui.
Par rapport aux migrants, notamment.
Par rapport à une espèce de parc où sont parqués, on va dire, les marginaux de cette ville, les...
Voilà. Et en fait, c'est vrai que les gens s'imaginent tout un tas de choses sur cette attaque. Et il n'y a que lui qui reste bienveillant et qui a envie de dire « Mais non, mais c'est des, enfin, ces gens ne sont pas bien dans leur peau, ils sont pauvres, ils ont faim. Vous, si vous aviez faim, qu'est-ce que vous feriez ?» Enfin, voilà. Et c'est le seul, en fait, c'est lui qui est attaqué, mais c'est le seul à rester vraiment stoïque et qui va défendre, en fait, ces gens-là.
Surtout qu'on ne sait pas si ce sont ces gens-là qui l'ont attaqué.
Et qui, en plus, va se sentir attaqué par d'autres gens qui ne sont pas du tout ceux de ce qu'on croirait.
Oui,
pas
plus
de...
ceux qui distillent la haine contre les gens gens-là, qui sont partés.
Ceux qui veulent lui prendre sa maison. Oui. Voilà, il a de là naît une espèce de paranoïa, mais pas du tout là où on croirait pas. Voilà, de cette attaque, il sent du danger. Il voit venir du danger, mais pas celui des gens du parc. Et c'est très étonnant sur cet aspect-là, c'est que finalement, il se sent mal, il se sent embêté, il se sent menacé, mais pas
par l'agresseur ou le groupe derrière.
Pas du tout.
Non. Et d'ailleurs, le lendemain, parce qu'il est persuadé que c'est un enfant, il cherche partout dans la maison pour voir, avec l'espoir en fait, de pouvoir l'aider, de pouvoir l'adopter, de pouvoir avoir une compagnie aussi. Et c'est vrai que ce vieux monsieur, ce personnage principal, est hyper... hyper touchant, très très malicieux, très très drôle. C'est vraiment quelqu'un de c'est un très bon personnage, je trouve, et très profond.
Tout est, je trouve, dans ce livre-là, parce que c'est un peu, alors je sais pas si farfelu c'est vraiment le mot, c'est un peu, tu sais jamais si t'es trop dans la réalité, dans le c'est très particulier. C'est, moi, je trouve un peu, je l'ai dit pendant la pause, mais c'est un petit ovni. Mais tout repose sur les personnages. Les personnages sont assez incroyables. Ils sont très... Il y a cette belle-sœur, là, qui est une femme toujours très apprêtée, toujours parfaite, toujours... et qui commence à sentir avoir des sentiments, à avoir des... qui commence à changer, sans vraiment changer, puisqu'elle reste cette femme très froide, très stoïque.
À devenir humaine. Et
peut-être, pourquoi pas, face à cette agression, face à ce qu'il a vécu, va commencer peut-être à baisser les épaules un peu. Tout est dans les personnages. L'histoire est là pour porter, je pense, plus des personnages que l'inverse. Moi, c'est ce qui m'a touchée. Plus les personnages que l'histoire en elle-même. Il parle de migrants sur la quatrième de couverture. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment ressenti. J'ai lu la quatrième de couverture après avoir lu le roman. J'ai pas senti de leçon sur les migrants, par exemple, en lisant le livre. Effectivement, en le lisant derrière, je peux voir quelque chose, mais c'est, pour moi, c'était pas ça l'objet du livre. J'aurais dû lire peut-être une interview de l'auteur, voir où il en était par rapport à ça, mais moi, j'ai plutôt senti, voilà, l'humanité, le fait de se réouvrir, ce petit Buzzy là, qui est un peu malheureux sans sa femme, puis cette agression va réveiller quelque chose en lui. Au début, ça va être difficile parce qu'il a l'impression qu'il va avoir la rage. Enfin, oui, il a des petits moments de panique, des petits moments d'interrogation. Mais finalement, il va redevenir peut-être quelqu'un, retrouver un peu des relations. Il va rencontrer une voisine.
il va se rendre compte un peu aussi le voilà le fils de sa belle-sœur de quel type de personne il est entouré. Enfin voilà, c'est la, se rouvrir suite à un événement particulier pour moi plus que qu'une leçon sur les migrants.
Intéressant, oui.
Ouais. Ça a l'air vraiment bien. Ouais.
Mais c'est très étonnant. Je vais vous lire un petit passage, si vous voulez. Ouais. C'est le à l'aube, en fait, quand il se lève après. Enfin, il n'a pas dormi, mais après l'attaque, en fait. Sa concentration était troublée par le garçon, tout autant que par son passé, et il était épuisé après cette nuit presque blanche. Il gravit l'escalier jusqu'au palier où, la veille au soir, il avait hésité dans l'aveuglante obscurité. Les ombres qu'il avait craintes à cause de leur profondeur, leur contour et leur forme s'étiraient dans l'escalier. La nuit, ça allait, le jour aussi. Mais à l'aube, c'en était trop pour lui. Pas encore vraiment le matin, juste l'heure grise et sans personnalité, où seul le ciel fait du bruit et où les péchés mortels se déversent dans les rues.
Ça a l'air beau en plus. Comme oui, c'est très bien écrit.
Ouais. Ouais. C'est très chantant, c'est belle la mélodie d'ailleurs. Ouais. Mais c'est là, effectivement. Okay.
Et c'est son. Non, je ne sais plus, vous l'avez peut-être dit, mais j'étais en train de manger du fromage. C'est son premier livre ou...
Non, il avait écrit Moisson et il a été plusieurs fois finaliste du Booker Prize, qui est le... qui est une sorte de Goncourt anglais, mais peut-être encore plus. Hein. Ouais.
Encore plus.
Ah. Mais en traduit en français, il n'y avait que Moisson.
Oui. Ouais.
On sait qu'il a attaqué à la fin du livre ou pas?
Je réponds.
Non, à la pause.
Ah oui, on aura repris. Bon, on ne peut pas le dire.
On ne peut pas le dire maintenant. Sinon, si tu spoiles le tout.
Mais non, mais on peut dire oui, on découvre qu'il a attaqué.
Oui, mais
si c'est non, oui, on n'en parle pas.
Et c'est vraiment ce qui est important. Voilà.
Je veux savoir, moi.
Bah, tu attends quand on aura rendu l'antenne.
Voilà, bah, écoute, on va rendre l'antenne, merci. du coup, on rentre dans les vacances. Dans 2 semaines, vous êtes là, vous n'êtes pas là? Oui, vous êtes là.
C'est le 2 novembre.
Peut-être.
Le 2 novembre. Ah.
Oui.
Vous faites peut-être le pont. Moi, je suis là, mais...
Moi aussi.
Eh bien, on verra plus tard. On en parle et on vous dit.
C'est bien de faire une réunion en direct.
C'est sympa.
Hein, c'est sympa.
On pourrait faire voter les auditeurs. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une émission le 2
ouais. Ou pas. On connaît le thème ou...
J'hésite entre plusieurs, donc on fera un sondage
interne
pendant cette fameuse réunion.
Eh bien, on a beaucoup de choses à se dire. Allez, en tout cas, merci d'avoir participé à cette émission.
Et bonnes vacances alors.
Allez, bonnes vacances à tous ceux qui partent et bon travail à ceux qui restent, parce qu'il y en a qui restent.
Voilà.
On pense à eux.
C'est
ciao.
Clair.
Allez, à bientôt, bye.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les directionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas.